Merci d'écouter France Musique, il est 8h30.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Retour au baroque dans son nouveau roman « L'amour, la mer » qui vient de paraître chez Gallimard. Pascal Quignard nous plonge dans l'Europe au mi-temps du XVIIe siècle, une grande histoire d'amour entre un compositeur sans œuvre qui, comme d'autres, ne publie pas, il s'appelle Hatton, et puis une musicienne, violiste, venue de Baltique, Tuline, si je prononce bien.
Très bien, très très bien.
Un couple imaginaire qui croise des compositeurs réels, il y a Froberger, Blanc Rocher, entre autres, dans une France secouée par la fronte et des conflits religieux. Bonjour Pascal Quignard.
Bonjour.
Merci d'être ce matin sur France Musique. France Musique où, il y a 33 ans, paraît-il, s'est faite votre rencontre avec Jordi Savall, qui donnera naissance à Tous les matins du monde, votre récit, votre scénario et le film d'Alain Corneau, qui vous a rendu soudainement populaire et qui vous colle peut-être trop à la peau, à votre goût?
Ah, pas du tout. Et de toute façon, Jordi Savall, même à 80 ans, ne me collerait jamais à la peau.
Mais de vous réduire pour certains à cette seule œuvre.
Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup plus travaillé avec des musiciens contemporains que dans le monde du baroque. Si vous voulez, d'une autre manière, bien sûr, je préfère peut-être travailler avec Suzanne Giraud ou avec Michel Reverdy ou avec Aline Pibault ou avec. Mais d'une autre manière, le baroque est arrivé un petit peu comme quelque chose d'un peu sauvage à ce moment-là. Donc il y avait quelque chose de moderne aussi à réactualiser finalement, c'est invieillissable, la pulsion est invieillissable, et ce type de musique ne reviennent pas, elles persistent comme ça dans le temps, de même qu'un moment, au XVIe siècle, on n'aime que la tragédie de Sénèque, et puis après ça s'efface, et puis on n'aime plus que... Et là, ce qui est revenu, et ces œuvres-là sont très très belles, elles sont toujours assez mystérieuses. Froberger, il nous manque encore beaucoup de choses, c'est très difficile de l'interpréter parce qu'il explique bien qu'il faut jouer à discrétion, sans aucune mesure, mais tout ça reste de façon très égrenée. Mais tout ça reste très mystérieux quand même. On ne sait pas vraiment comment chanter l'oiseau, si j'ose dire.
Et les oiseaux sont présents aussi. On en parlera dans votre livre, L'amour, la mer, Pascal Quignard. Malgré cela, vous revenez au XVIIe siècle. D'ailleurs, Tuline elle-même est une élève dans votre livre de Monsieur de Sainte-Colombe. Comment le désir de ce roman est-il né? Dans quelles circonstances?
Oh, un peu triste. Un peu triste, comment dire, dans cet abominable mois de mars 2020 dont vous vous souvenez, j'ai perdu mon petit frère, qui était un violoncelliste, et si vous voulez, tous les souvenirs d'enfance, j'ai joué du violon, on a fait des duos et aussi du piano-violoncelle. Pendant toute notre enfance, il y avait là une unité qui s'est brisée, une séparation incompréhensible, parce qu'il est toujours incompréhensible que le plus jeune parte le premier. Et j'ai peut-être voulu, je ne pouvais peut-être pas en parler directement. Il m'a fallu trouver une période aussi plus sombre, à vrai dire, plus sombre que la nôtre, avec une anomie totale, puisque le pouvoir n'est même plus à Paris, le roi a quitté la ville, les barricades sont là, l'anomie est totale, l'épidémie est totale. Et en même
la
temps.
Peste.
Oui. Et en même temps, comment dire, c'est le moment où l'art est le plus beau. Les peintures, comment dire, de Georges Latour, ils viennent mourir de l'épidémie au début de 1552. Jacqueline Pascal fiche le camp à Port-Royal, les Champs. La Rochefoucauld, qui est quand même un de nos plus beaux écrivains, est sur les barricades et se fait blesser. Blanche Roche meurt et Froberger essaye de le sauver, n'y parvient pas, mais il compose ce qui est peut-être une des premières suites françaises avec le tombeau de Blanche Roche.
Voici Blanche Roche. Compositeur.
Thank you.
L'offrande allemande de Blanc Rocher ou Blanche Roche, Diego Salamanca au luth, c'est sur un très beau disque paru assez récemment avec Pierre Gallon au clavecin autour des différents tombeaux pour Blanche Roche ou Blanc Rocher, notamment celui écrit par Froberger. Pascal Quignard est notre invité ce matin pour son nouveau roman L'amour, la mer. Vous connaissiez cette musique de Blanche Roche qui est un instrumentiste et dont il y a très peu de traces de
Je ne connaissais pas. Ça me permet de saluer Pierre Gallon dont le disque est très beau. Et ça permet aussi, comment dire, de comprendre ce que peut avoir le luth comme un peu japonais, comme quelque chose qui nous vient presque d'un Orient, d'une délicatesse qui, en plus, comment dire, Froberger a cherché, au clavecin, à imiter ou à transformer la façon d'égrener les notes pour que chacune ait sa puissance. Je pense que c'est ça que veut dire le mot de discrétion qu'il emploie pour son œuvre.
Il y a quelque chose, parmi d'autres, de fascinant dans votre livre, et c'est pas la première fois que vous le faites, c'est de mêler des personnages réels, des compositeurs réels comme Froberger, à des personnages imaginaires, ce couple, ce grand amour qui traverse tout le livre. Comment, pourquoi, y compris même dans un tableau où un personnage imaginaire d'un réel tableau apparaît.
De faire sortir du tableau les regards un peu mystérieux qui y sont, les corps sublimes qui peuvent y être. Je pense que c'est impersonnel, si vous voulez. Les rêves font comme ça avec nous. Nous mêlons dans nos rêves des figures des romans, des figures des films que nous avons vus. Nous les mêlons à nos plus proches et aux désirs et aux amours que nous pouvons avoir. J'ai besoin de ce mélange absolu, en effet, entre l'onirique et le désir.
Il se trouve que Monsieur de Sainte-Colombe ne voulut pas être publié. On n'en sait point la raison. Nul n'en a rendu compte. C'est pourquoi aussi on l'oublia. Il se trouve que Monsieur Hatton ne souhaita pas être publié, tant était vive sa répulsion devant le regard des autres, tant était vif son dépit devant la réputation de difficulté qui entourait ses préludes, tant il était fier. Un extrait du livre de Pascal Quignard, L'amour, la mer. Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui vous fascine même dans ces compositeurs sans œuvre qui refusent de publier ce personnage imaginaire, Hatton, mais aussi bien d'autres, Sainte-Colombe, vous en avez déjà parlé, écrit sur lui, Froberger aussi, il y a beaucoup d'improvisation finalement chez lui.
Oui, il y a même un refus de publication très très net, on a moi ce qui me fascine c'est ça, c'est à quoi l'art s'adresse-t-il, à quoi l'œuvre d'art s'adresse. Et en fait, peut-être qu'elle est inadressée. Dans le cas de Froberger, il y a plusieurs lettres, comment dire, de la princesse Sibylle, qui était son élève, la princesse Sibylle de Wurtemberg, alors qu'après sa mort, comment dire, Huygens, l'ami de Descartes, lui demandait que lui soit communiqué, non pas des publications, parce que Froberger ne voulait pas que ça soit publié, mais au moins des copies de ses œuvres. Et elle refuse en disant « mon maître ne voulait pas que soit communiqué », comme s'il y avait une... Alors je ne sais pas si c'est... Mais vous voyez, c'est comme le chant des oiseaux, c'est inadressé. Les oiseaux sont dans leur milieu, ils le font résonner, ils s'y donnent complètement, ils attendent même pour le rouge-gorge, l'obscurité, afin que ça sonne complètement au cœur de la nuit. Ils rompent la nuit, mais c'est adressé à quoi? Et c'est, ce ne sont pas des romantiques, vous comprenez, Sainte-Colombe, ou ce sont des, ou Froberger, ou Athènes, mais c'est leur mystère. En effet, le mot que vous employez, que ça me fascine, oui, ça me fascine. Ça me fascine. De même que, par exemple, Saint-Simon écrit, comment dire, une œuvre immense, la met dans une malle, 2 siècles après, on la retrouve et on l'ouvre, mais il n'a peut-être même jamais songé à ce que ce soit publié.
Pour qui les oiseaux chantent-ils? Voilà. Pour eux?
Pour eux, pour peut-être donner des fonctions comme ça à l'art n'est pas évident. Pour marquer le milieu, peut-être, et dire « je suis là », c'est possible. Pour le faire résonner, pour savoir, pour que l'amoureuse ou l'amoureux sache qu'il faille garder une certaine distance afin qu'il se retrouve. Pour appeler le soleil, on peut dire aussi que les oiseaux appellent le soleil. On peut trouver des tas de fonctions à la musique. Mais, d'une autre manière, je trouve assez extraordinaire que cette idée d'une le mot que vous avez qu'emploie Blanche Roche, offrande est merveilleux, comme d'ailleurs Bach, qu'il y ait une offrande comme ça musicale, mais offrande à tout, à rien, à Dieu, à la nature, à je ne sais quoi.
Et vous offrez ce livre à qui? À vous, à ce frère que vous avez évoqué? Quel égard?
Sans doute je l'offre à c'est très curieux pour quelque chose qui est un peu endeuillé, mais je l'offre à ce bonheur. Ce bonheur que j'avais avec lui de faire de la musique. Faire de la musique à plusieurs, c'est très différent d'en faire seul, comme je le fais de maintenant.
Vous jouez toujours?
J'ai joué toujours. Oh, le signe de la vieillesse, je vais vous dire ce que c'est de passer du violon au piano. Parce que le violon exige une musculature que l'on perd avec le temps, tandis que le piano reste quand même plus. Mais faire du piano seul, c'est très bien. Mais là aussi, c'est dédié à rien. Même pas au chat qui n'aime pas beaucoup la musique que je leur joue. Mais le silence avec un frère, avec des amis, le silence qui précède la musique. On parle souvent du silence qui succède à la musique comme quelque chose qui appartient à la musique elle-même. Mais moi, je crois que le plus beau, c'est le silence qui précède. On se regarde, on fait silence et on attaque. Et ça, à plusieurs, ou avec mon petit frère, c'était le plaisir quotidien.
le début du tombeau fait à Paris sur la mort de monsieur Blanc-Rocher ou Blanche-Roche. Pierre Gallon, à nouveau, enfin cette fois au clavecin sur ce même disque dont on écoutait un premier extrait tout à l'heure. Pascal Quignard est notre invité ce matin sur France Musique. L'amour, la mer, son nouveau roman vient de paraître chez Gallimard. La mort de Blanc-Rocher, elle est évoquée dans le livre. On croise beaucoup de compositeurs, à commencer par Froberger, qu'on entend, cet Allemand qui a inventé la suite française. Roman qui est planté au milieu du XVIIe siècle, 1652 précisément. Pourquoi ?
Parce que c'est le moment, vraiment, peut-être, le moment de conte, si vous voulez. Les contes sont sauvages. Il n'y a plus de pouvoir, le roi n'est pas là, la société est dans un état de rupture complète. Les guerres de religion, bien plus terribles que celles que nous connaissons de nos jours. J'avais besoin de cet arrière-fond, peut-être pour faire surgir des personnages qui sont complètement de notre époque, mais qui avait besoin de cet arrière-fond de sauvagerie et de contes et de... J'aime beaucoup les contes. J'avais besoin de cette forêt derrière, si vous voulez. C'est pour pouvoir m'en détacher et puis aller vers la mer du Nord, faire une histoire d'amour beaucoup plus océanique, beaucoup plus... Et même chose, si vous voulez, de même que la mort est une séparation incompréhensible. De même que la naissance, d'ailleurs, notre naissance est une séparation incompréhensible au corps de notre mère. De même, l'amour et les séparations incompréhensibles de l'amour, de la différence sexuelle, faut-il s'approcher beaucoup de l'autre, prétendre comprendre l'autre ? C'est impossible. Il faut laisser une sorte de respect, d'espace entre une femme et un homme. Et ils le franchissent, ils ne le franchissent pas, ils tombent, ils recommencent. C'est le thème de mon livre. Je trouvais ce thème de l'amour comme séparation merveilleuse et incompréhensible. C'est ça que je voulais faire.
Comme le chant des oiseaux, l'estran est quelque chose qui vous fascine.
Oui. Mais ça reste très enfantin. Je ne peux pas résister à l'âge que j'ai.
L'estran, on rappelle, la
mère se retire et laisse, comment dire... Le sable, tout redevient intact. Elle a ramené aussi des coquillages brisés, des bouts de bois. Il est très difficile de résister à l'envie de parcourir l'estran pour y ramasser des merveilles qui cessent d'être des merveilles quand on est de retour chez soi. Mais je crois qu'en Bretagne, ça s'appelait le chemin de Dieu. Ce chemin tout nu qui apparaît entre la mer et la plage.
J'ai été étonné que vous écriviez un roman. Je croyais que vous aviez arrêté, que vous n'étiez plus que sur le dernier royaume.
Oui, je comprends.
Cette écriture fragmentaire.
J'ai été étonné comme vous, mais j'avais besoin, pour le dire de façon étrange, de faire quelque chose qui ne soit pas du tout intellectuel, quelque chose qui soit pur sentiment, qui soit pur développement, très proche de la musique, beaucoup plus peut-être que de l'essai ou que de la pensée. C'est ça que je souhaitais faire.
Tout à l'heure, j'évoquais pour qui écrire un livre. Quel cas, le mot est assez laid, mais est-ce que vous pensez au lecteur en écrivant beaucoup, parce que vous pouvez dérouter le lecteur pendant quelques lignes, on change de point de vue, parfois on change d'époque, et puis on finit par comprendre où on est. C'est un livre déroutant.
Je suis tellement lecteur que je sais que rien ne peut dérouter vraiment la lecture. Lorsqu'on se plonge dans la lecture, tous les éléments se recomposent. Et l'on cherche toujours le mystère, l'énigme qu'il y a dans chaque personnage, ce qui l'anime, ce qui va se passer, ce qui va se dérouler, et tout prend ordre. J'ai une confiance folle dans la lecture, qui est un moment extrêmement passif où il faut toujours supposer le lecteur très intelligent et très sensible. Et merveilleusement, c'est le cas.
Il y a à nouveau des ombres errantes dans ce livre de Pascal Quignard. Les ombres errantes de François Couperin. Pascal Quignard a reconnu tout de suite Marcel Meyer au piano. Les ombres errantes était aussi le titre de votre essai qui a reçu le prix Goncourt en 2002. Des ombres errantes, on en croise dans votre livre. Mais avant tout, il y a ce couple qu'on a évoqué, ce grand couple, c'est presque un couple légendaire qui traverse ce livre, ce compositeur sans œuvre, cette musicienne venue de la Baltique, dont on ne sait d'ailleurs, dont on ne saura jamais très bien comment ils se sont rencontrés si, mais pourquoi ils se séparent.
Oui, mais ils ne le savent pas eux-mêmes. Ils ne le savent pas eux-mêmes. Il y a ce thème, comment dire, de la contingence sublime, mais de la contingence de nos vies. Vous savez, en vieillissant, on met le doigt dessus. C'est pour ça que je voulais un personnage, comment dire, qui tombe dans un escalier. C'est vrai tout ça. Ou bien la mort de Froberger en jouant aux cartes, en se levant pour les vêpres. La contingence de la mort, mais la contingence aussi, comment dire, de... on revisite dans nos rêves ou dans l'insomnie, lorsqu'on a beaucoup vécu, tout ce qu'on a vécu de telle sorte que les intrigues se mettent à différer les unes des autres. Ça aurait pu être autrement. Ce qui a eu lieu était peut-être très injuste. Ou bien alors, ça aurait dû être bien plus terrible, une vengeance. Bref, ce que je veux dire, c'est que ça tient à des riens. Il ne faut pas croire que nos vies soient compréhensibles. Il ne faut peut-être même pas exiger de nos vies qu'elles le soient. Et de nos décisions non plus qu'elles le soient. Et leur amour, ils ne comprennent pas pourquoi ils prennent la fuite soudain et puis se rejoignent avec un émerveillement, comment dire, inentamé, invieillissable, quand ils se retrouvent. C'est le fond de ce livre, que cette inséparable séparation.
Il faut peut-être dans la musique, comme il faut peut-être dans l'amour, au moins une sorte de regret, une nostalgie plus vaste que la joie que le plaisir donne, un souvenir qui l'anime. Quelques lignes de L'amour, la mer de Pascal Quignard, paru chez Gallimard, notre invité. Ce matin, vous écrivez en musique ?
Oh non. Je suis très étonné de ceux qui parviennent. Je sais comment dire que Claude Lévi-Strauss écrivait en écoutant des concerts symphoniques. Je ne pourrais même pas écouter, mais même les oiseaux m'empêcheraient d'écrire.
On va se quitter avec la voix de Jesse Norman. Purcell, Didon est né. Qu'est-ce qu'elle évoque, cette musique, pour vous ?
Remember me. Le mot même de remember en anglais, le fait de se remembrer, de retrouver ses membres. Dans l'union qui nous précède, nous étions un seul corps et un seul membre avec notre mère, dans le ventre de notre mère. Il y a dans le fait de se souvenir de remember me, ce regret que vous venez de dire à l'instant, l'idée de pouvoir se réunir, même si c'est impossible, se réunir dans l'amour.
Jesse Norman, Purcell, Didon est né, c'est plus l'amour, la mort, l'amour, la mer. Pascal Quignard, le nouveau roman vient de paraître chez Gallimard. Merci beaucoup, Pascal Quignard.
Merci beaucoup.
Demain, nous rendrons hommage au cinéaste Jean-Jacques Benex avec Gabriel Yared et avec des extraits d'un entretien qu'il nous avait accordé il y a quelques années. Il y avait au générique de Musique Matin aujourd'hui Emmanuel Morse d'Incan, Frédéric Kiefer, Marion Guimet, Flora Sternadel, Pierre Matignon, Laure Poissonnier, Yacine Bouzard. Et la réponse à notre jeu il y a une heure, la voix mystère, c'était celle de Françoise Giroud.